Monsieur le Préfet, vous venez d'assister à cette journée pour la fraternité avec cette plantation d'un olivier dans le parc Solazur à Tarbes. Vous avez évoqué la laïcité, vous avez parlé de deux choses dont vous êtes garant en matière de laïcité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles ?
Bien sûr, avec plaisir. La laïcité, d'abord, c'est la garantie de permettre aux gens de croire ou de ne pas croire. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est que pour ceux qui croient, l'État est garant dans le cadre de la laïcité de permettre le libre exercice des cultes. Et c'est ma mission en tant que représentant du ministre de l'Intérieur qui est accessoirement le ministre des cultes.
Alors a priori, on se dit que eh bien, la religion souvent est quand même la source de division, de conflit ou d'incompréhension tout simplement. Modestement, dans ce petit parc à Tarbes, eh bien, on a vu que des personnes, au nom justement de leur foi, allaient à l'encontre de ce préjugé.
Alors je crois que quand on a une lecture un peu large des différents textes de religion, on se rend compte que toutes les religions a priori prêchent l'amour, la paix, la concorde. Et qu'en fait, régulièrement, il y a des tensions entre les religions. Alors, chez nous, de manière plus ou moins exacerbée, mais dans certains pays, de manière très marquée. Et je crois que c'est important d'avoir ces moments-là où on voit que la paix est possible, mais aussi pour dire que chacun est un artisan de paix ou un artisan d'éviter ces zones de friction. Et c'est pour ça que je prenais cette image de l'huile d'olive comme mon gant permettant de faciliter ce dialogue et cette écoute.
Alors, il y a une personne qui a pris la parole aussi en dénonçant la responsabilité des médias et des réseaux sociaux en disant qu'ils avaient vraiment leur part très large de responsabilité en matière de méfiance, de défiance dans la société, d'incompréhension entre les personnes de différentes religions. C'est un peu court quand même de résumer cela. Quid de la responsabilité des hommes politiques, peut-être des familles aussi? Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'éducation et de civilisation tout simplement?
Alors ça rejoint un autre point que j'ai évoqué, hein. Je pense que la responsabilité elle est individuelle. Si chacun fait à la place qui est la sienne, œuvre de paix, de discernement, d'esprit critique, on limitera, et notamment alors, plutôt que de viser les médias, les hommes politiques, enfin, je trouve que c'est toujours un peu facile de taper sur les autres, d'abord s'interroger sur ce qu'on fait, ce que chacun fait, mais en tout cas il y a un phénomène réseaux sociaux qui est celui de la désinhibition derrière l'anonymat ou les pseudonymes. Récemment, lors d'une interview à Radio Présence et à La Dépêche, je soulignais ce point-là. C'est vrai que quand on est caché derrière un pseudonyme, on peut dire tout et n'importe quoi. Et puis quand on passe sa journée un peu coupée du monde à ne lire que ce qui est publié sur les réseaux sociaux, on s'alimente de ça et on en vient à croire parfois que la Terre est plate. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut apprendre à s'écouter. Et en fait, quand on regarde un ordinateur, quand on est enfermé sur un réseau social, c'est pas intégralement mauvais, mais si on n'a que ça et qu'on est enfermé sur un réseau social, on n'a plus de dialogue. Je ne connais pas un ordinateur, même avec de l'intelligence artificielle, qui réponde à vos critiques quand vous envoyez un message sous fond d'anonymat.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre cela ? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que préfet ?
Alors en tant que préfet, on sensibilise d'abord dès le plus jeune âge les enfants, d'abord à une utilisation mesurée des réseaux sociaux, voire à pas d'utilisation du tout des réseaux sociaux avant une certaine maturité, avec une préparation à ça. Je crois que nos parents n'étaient pas préparés à ça. C'est difficile pour des parents aujourd'hui de savoir comment on utilise les réseaux sociaux, parce qu'il n'y en avait pas quand on était plus jeune. Mais le sujet de fond, ça reste quand même l'éducation. Voilà, on ne peut pas toujours attendre des autres, on ne peut pas attendre de l'éducation nationale, on ne peut pas attendre de l'État, on ne peut pas attendre même des religions d'apporter des réponses à tout à la place des parents. Je pense que c'est aux parents, et ça c'est vraiment essentiel, sur plein de sujets, hein, la drogue, le respect des lois, etc., d'apporter cet esprit critique, d'aider nos enfants non pas à les surprotéger par rapport à un environnement, mais à les préparer à affronter cet environnement en leur donnant les outils qui leur permettra plus tard de construire leur libre arbitre. Je pense que c'est ça qui est essentiel.
Merci Monsieur le Préfet.
Je vous en prie.
Père Abdel,
oui.
C'est une grande joie de vous voir à cette journée de la fraternité.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vient de se passer, comment vous l'avez vécu? Pourquoi c'est important pour vous d'être là?
Ah oui, c'est important pour nous d'être là parce qu'en fait, l'interreligieux, ça fait partie de la vie de tous les chrétiens, les juifs, les musulmans, voilà. Et puis c'est une journée très importante pour moi aussi parce que je suis l'aumônier du secours catholique. Donc ils ont demandé particulièrement si le secours catholique pouvait être là, représentant le secours catholique, juste pour voir. Et puis si nous pouvons après faire des ateliers avec l'association, quoi.
Parce que le secours catholique, évidemment, vient en aide aux personnes sans règles, sans limites. Évidemment, tout le monde est accueilli, quelle que soit sa religion. C'est, en quelque sorte, vous agissez aussi pour le dialogue interreligieux en accueillant tout le monde au secours catholique.
Bien sûr, parce que le secours catholique est au centre. Hein, parce que nous, comme secours catholique, nous accompagnons tout le monde dans la diversité culturelle, religieuse, et puis voilà. C'est très important, quoi.
Merci, Père Abdel.
Merci.
Bon, Vincent Mangin, j'ai trouvé cette cérémonie très émouvante et très fraternelle.
Oui, Jacques Guéraud. C'est une cérémonie qui me parle beaucoup parce que dans le moment que nous traversons, il y a besoin. Et ça veut dire que, bon, quand même, au fond, l'homme reste quand même en quête d'un grand bonheur, une grande joie. Donc merci à tous ceux qui l'ont organisé et puis qu'il y en ait beaucoup d'autres.
On a quand même, quand on voit que, eh bien, il y a tant de conflits dans le monde et que nous, modestement, on plante un olivier, on peut se dire à quoi bon planter un arbre pour la paix dans le monde.
C'est un symbole. Le symbole, c'est incontournable. Il y a besoin. C'est un cadre. C'est un cadre. Et je pense que chaque fois qu'on reverra un olivier, les gens qui ont participé à cette cérémonie penseront à cette cérémonie et feront peut-être un geste supplémentaire pour la paix.
Avec cette idée de transmettre et puis que ça puisse se passer à un groupe plus large que les personnes qui étaient présentes aujourd'hui.
Exactement.
André Pastor, vous êtes la cheville ouvrière du groupe interreligieux. Bon. Alors cette cérémonie-là, pour la fraternité, elle a dû être quelque chose de fort pour vous. Racontez-nous un petit peu.
Ah ben déjà depuis un an, on travaille là-dessus. Hein. Et donc on s'était dit, le 4 février, c'est quand même une date qu'il faut retenir. Et il faut quand même remplir cette date. Et alors, quelqu'un a dit, mais pourquoi ne pas planter un olivier? Et pourquoi pas? Alors après, on a commencé, mais ça a été terrible parce que...
Pourquoi terrible?
Eh oui, parce qu'il faut demander à les autorisations à tout le monde, tout ça, et puis les autorisations tardent à venir. Alors que les gens savaient bien. Mais nous, on se disait, mais comment se fait-il qu'on n'ait encore pas reçu les réponses? Et puis, en fin de compte, il faut savoir attendre, voilà. Et donc j'ai appris à attendre avec mes collègues. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont déroulées et chacun est venu participer. Que ce soit Adriana, donc le lycée horticole, que ce soit la mairie nous a donné un bon coup de main. Là, je crois qu'il faut remercier, d'ailleurs on le fera tout à l'heure officiellement, remercier tout le personnel, qui nous a, les techniciens, les jardiniers, tous ceux qui nous ont permis justement d'avoir, de réussir ce moment très fort. Voilà.
Avec vraiment plusieurs représentants de différentes religions. Aujourd'hui, c'était un événement, mais vous, c'est ce que vous faites dans votre groupe tout au long de l'année. Vous n'attendez pas cette journée du 4 février.
Oui, mais ça a été un point fort au cours de cette année. Voilà. Alors, on verra peut-être l'an prochain si on fait quelque chose d'autre, mais bon.
Quel fruit ça porte sur la durée, ce dialogue interreligieux? Parce qu'on a l'impression à petite échelle que c'est tout petit. On se dit parfois, mais à quoi bon?
Oh non, moi, je construis toujours avec des petites briques, vous voyez?
Avec des briquettes.
Avec des briquettes, voilà. Comme à Toulouse, c'est des petites briques, voilà. Et puis, en fin de compte, ça fait des murs après. Mais nous, on ne veut pas faire des murs, on veut faire des ponts, vous voyez? Alors, une fois qu'on a fait le pont, donc il faut passer sur ce pont. Mais ça aussi, c'est faire le premier pas sur le pont, c'est toujours difficile. Une fois qu'on l'a fait, après, ça continue. Alors, ce que ça produit, il y a quand même pas mal de nouveaux qui sont arrivés, et des jeunes.
Ça veut dire que quand même, il y a une vraie quête de fraternité, de connaissance mutuelle.
C'est surtout ça, c'est surtout se connaître. Il n'y aurait plus de guerre si on arrivait à bien se connaître. Parce que si on reconnaît que l'autre, il est différent de moi, il doit m'apporter ses richesses, moi je lui apporte mes richesses, et ensemble, on construit quelque chose. Voilà.
Merci, Père André Pastor.